VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct du Studio 13. Ravie d'être avec vous pour vous présenter cette deuxième édition de la soirée. Vendredi 3 mars 2017, au sommaire, nouvelle attaque djihadiste dans le nord du Burkina Faso. Ansarul Islama a tué 2 personnes à Kourfayel. Niger, affrontement entre militaires et policiers, un soldat a été tué. Lutte contre Boko Haram, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU au Cameroun pour attirer l'attention sur la crise autour du lac Tchad. Nous ferons aussi le point sur cette fusion de groupes terroristes dans le Sahel, les sports, l'économie, mais d'abord le journal. Nouvelle attaque djihadiste dans le nord du Burkina Faso. Ansarul Islama de Malam Dik a pris d'assaut le village de Kourfayel. En début de semaine, des attaques avaient été perpétrées contre des commissariats de police de Ouagadougou. Zoumanawo Nogo fait le point.
Des hommes armés, certainement du groupe Ansarul Islam de Malam Diko, ont tué ce vendredi un enseignant et un habitant à Kourfayel, village situé à quelques 7 km de la ville de Djibo, au nord Burkina. Cet assassinat fait suite à la menace lancée il y a quelques mois de cela par ce groupe aux écoles, leur intimant l'ordre de cesser d'enseigner en français au profit de l'arabe et des préceptes de l'islam. Selon des témoignages, c'est la grande panique chez les enseignants dans la zone. Les uns et les autres ont commencé à faire leurs bagages pour rejoindre la ville principale d'Ibo. Le ministre de la Sécurité, d'après ses services de communication, va se rendre à Ibo le lundi prochain. Zoumanawo Nogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Un soldat nigérien tué lors d'affrontements avec des policiers. La confrontation s'est produite à Dosso, dans le sud du pays. Le gouverneur de la région frontalière du Bénin et du Nigeria compte 7 blessés, donc, dont 4 policiers et 3 militaires. Selon une radio locale citée par l'AFP, une banale histoire de contrôle routier d'un officier de l'armée par la police était à l'origine des violences. Des militaires ayant ensuite lancé une expédition punitive contre les policiers. Lutte contre Boko Haram, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU ont entamé ce vendredi leur visite au Cameroun. Ils tentent d'attirer l'attention sur la crise dans les 4 pays riverains du lac Tchad, où les attaques des djihadistes ont fait des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés. Claire Morin-Gibourg.
Les 15 ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité ont rencontré le président Paul Biya à Yaoundé avant de se rendre à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun. La région du lac Tchad n'a pas eu l'attention qu'elle méritait. Cette erreur, cette injustice est réparée, a déclaré François Delattre, l'ambassadeur de France à l'ONU. Cette crise ne sera plus jamais négligée, a renchéri Matthew Ricroft, le représentant permanent du Royaume-Uni. Monsieur Biya et les ambassadeurs ont envisagé un accompagnement plus soutenu pour le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, les 4 pays engagés dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram, selon la chaîne d'État CRTV. Après Maroua, la délégation du Conseil de sécurité se rendra à N'Djamena et à Niamey. Fin février, le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tiré le signal d'alarme sur la menace de famine dans le nord-est du Nigeria. Les Nations Unies cherchent 1,5 milliard de dollars en 2017 pour la région du lac Tchad, dont près de la moitié pour le nord-est du Nigeria, où plus de 5 millions de personnes manquent de nourriture. 14 pays ont promis 672 millions de dollars lors d'une conférence de donateurs à Oslo fin février.
Rwanda, l'épouse d'un membre de l'opposition en exil, portée disparue depuis 2 semaines au Rwanda, est aux mains de la police. Violette Ouamahoro est accusée de travailler avec des criminels, d'après son mari, Faustin Rukundo. En République démocratique du Congo, la police a lancé un assaut ce vendredi à Kinshasa contre la résidence du député Mwanda Semi, leader du groupe mystico-politique Bundu Dia Congo à Kinshasa. Selon le porte-parole de la police, le colonel Piero Mwanamputu, l'opération vise à libérer des dizaines de personnes qui vivaient dans ce lieu. L'armée de l'ordre lance-pierres et de bâtons, des vigiles du groupe ont opposé une résidence aux policiers qui tentaient de perquisitionner la parcelle. La police a usé de gaz lacrymogène, mais la situation est restée confuse jusqu'en début d'après-midi, paralysant les activités dans le secteur. RDC toujours, l'ONG britannique Global Witness accuse le groupe minier suisse Glencore d'avoir versé plus de 75 millions de dollars à un homme d'affaires israélien proche du président congolais Joseph Kabila. Une transaction qui se serait produite au détriment de la principale société publique minière du pays. Le Zimbabwe a lancé un appel à l'aide internationale pour 100 millions de dollars après des inondations qui ont fait au moins 246 morts et déplacé des milliers de personnes dans un pays qui a subi des pluies torrentielles alors qu'il émerge à peine d'une terrible sécheresse. Jacques Aristide.
La sécheresse provoquée par le phénomène El Niño a été particulièrement sévère l'an dernier en Afrique australe, détruisant les récoltes et laissant près de 4 millions de Zimbabwéens dépendants de l'aide alimentaire. Mais c'est maintenant un trop-plein d'eau qu'ils doivent faire face. Les pluies torrentielles ont dévasté des villages du sud et du sud-est du pays, détruit des routes, les cultures et le bétail, et contraignant les habitants à trouver refuge dans des abris temporaires. Le ministre zimbabwéen de l'administration locale estime environ 2000 le nombre de sans-abri et ses vieux Kasukuwere d'ajouter que 74 écoles avaient été endommagées et que 70 barrages avaient débordé. Le gouvernement de Robert Mugabe, au bord de la faillite, ne parvient pas à faire face seul à l'ampleur de la catastrophe. Le ministre Kasukuwere en appelle donc aux agences de développement, au secteur privé et à tous les habitants, y compris ceux de la diaspora, à s'associer au gouvernement pour soutenir les programmes d'aide d'urgence.
Sachez aussi que la police zimbabwéenne a interpellé deux journalistes après la publication d'un article mettant en doute la bonne santé du président Robert Mugabe, parti cette semaine à Singapour pour une visite médicale. C'est ce qu'a indiqué leur avocat. Soudan du Sud, 4 soldats ont été arrêtés pour leur rôle dans le viol collectif d'une dizaine de femmes et de filles. Les faits se seraient produits dans le village de Koubi, où l'armée cherchait des suspects possibles pour le meurtre d'un général. Selon les médias locaux, les soldats auraient torturé et violé au moins 11 femmes, dont une fille de 13 ans.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Réouverture partielle de la frontière entre le Tchad et la Libye. Les autorités annoncent l'ouverture d'un couloir à Wour pour des raisons humanitaires et pour laisser passer un nombre croissant de Tchadiens qui veulent rentrer dans leur pays. Le gouvernement affirme par ailleurs continuer de sécuriser ses 1400 km de frontière avec la Libye. N'Djamena avait fermé sa frontière terrestre avec ce pays pour des raisons sécuritaires en faisant état d'une grave menace d'infiltration terroriste. Et concernant la crise en Libye, justement, des groupes armés islamistes ont lancé une nouvelle offensive contre la région pétrolière pour tenter de reconquérir des installations passées sous le contrôle des autorités parallèles basées dans l'est du pays. C'est ce qu'indiquent des sources militaires citées par l'AFP. Migration, 115 personnes ont été secourues au large de Tripoli alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer, mais 25 autres sont portées et disparues, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la marine libyenne. Signature d'un nouvel accord sur l'immigration entre l'Allemagne et la Tunisie. Le texte prévoit d'accélérer significativement les Tunisiens dont le titre de les expulsions de Tunisiens dont le titre de séjour a été refusé. Il s'agissait d'un point de tension entre les deux pays depuis l'attentat de Berlin. Ici aux États-Unis, deux nouveaux membres de l'équipe gouvernementale de Donald Trump sont maintenant en poste. Le Sénat a donné son feu vert à l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, pour diriger le département de l'énergie, tandis que le neurochirurgien de renommée internationale, Ben Carson, a été confirmé au ministère du Logement et du Développement Urbain. Chérubin Gaby Dorsil pour les détails.
Being in this room today and seeing this group of L'ancien gouverneur Rick Perry est maintenant responsable d'un ministère qu'il souhaitait éliminer quand il était candidat, ce qui n'a empêché que 62 sénateurs, donc démocrates et républicains, votent en sa faveur. À 65 ans, Ben Carson devient le seul noir du cabinet de Donald Trump. Le vote le confirma au poste de ministre du Logement était hier soir de 58 contre 41. Durant toute ma vie professionnelle, l'essentiel pour moi a toujours été d'accorder aux gens une nouvelle chance de mener une vie de qualité, a déclaré le docteur Carson après son investiture par le vice-président Mike Pence. Le président Trump et moi, a dit Mike Pence, avons la certitude que votre compassion, votre souci d'aider les autres, votre conviction vous seront utiles dans ce nouveau rôle. La confirmation de Ben Carson et Rick Perry intervient au moment où leur collègue de la justice, Jeff Sessions, est sur la corde raide suite aux révélations concernant ses contacts avec l'ambassadeur russe à Washington durant la campagne électorale. Les démocrates continuent de réclamer sa démission.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On enchaîne sur l'actualité économique en Afrique, la Minute Éco avec Dili Dico.
La Tanzanie interdit désormais l'exportation de minerais bruts non traités. Cette interdiction concerne notamment les minerais d'or, de cuivre, de nickel et d'argent. Selon les autorités tanzaniennes, la mesure annoncée ce vendredi vise à développer le secteur de la minéralurgie dans le but de créer de nouveaux emplois locaux et d'augmenter les revenus tirés de ces mines. Selon le dernier rapport de l'Institut national pour la paix de Stockholm, l'Algérie est le plus gros importateur d'armes lourdes en Afrique sur la période 2012-2016, avec 46% du total des importations. Le Maroc arrive en deuxième position, avec 15% du total des importations d'armes du continent. Ils sont suivis par le Nigeria, le Soudan, l'Éthiopie, le Cameroun et la Tanzanie. L'Égypte et l'Afrique du Sud ne figurent pas dans ce classement. Au Cameroun, les administrateurs de la Caisse nationale de prévoyance sociale ont noté, lors de l'adoption du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2016, un résultat de 43,7 milliards de francs CFA en 2016 par cette agence étatique spécialisée dans la sécurité sociale. Une performance jamais atteinte depuis 1967, date de création de l'organisme. Ce résultat s'explique par la revalorisation des taux de cotisation de 7 à 8,4% et le relèvement du plafond des salaires cotisables de 300 000 francs CFA à 750 000 francs CFA.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane. Bonsoir à tous.
La tropicale Amissa Bongo au Gabon en cyclisme.
Et oui, la cinquième étape entre Lambaréné et Kango, et c'est le français Johan Gen de l'équipe Direct Energy qui a remporté sa septième étape sur la Tropicale Amissa Bongo en 9 participations. Il devance au sprint le Marocain Mounir Marchoun. Johan Gen s'empare également du maillot jaune de leader au classement général.
Luis Enrique, soulagé après l'annonce de son départ de Barcelone.
L'entraîneur du FC Barcelone, qui avait annoncé mercredi son départ en juin prochain, s'est dit un peu soulagé d'avoir enfin pu lever le voile sur son avenir, tout en assurant être concentré sur l'envie de bien finir son ultime saison. Après 2 saisons et demie en poste et 8 titres conquis sur 10 possibles, Luis Enrique a expliqué que ce n'est pas l'environnement d'un club comme le Barça, mais plutôt sa propre exigence qui l'a poussé à partir à la fin de son contrat. Les Barcelonais qui s'attaqueront mercredi à l'immense défi d'un 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain après leur déroute à Paris, 4-0.
La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
Pas de match aujourd'hui, rendez-vous demain. Si la Zambie pays hôte s'est qualifiée pour les demi-finales après 2 victoires, toutes les autres équipes de cette édition de la CAN des moins de 20 ans joueront leur va-tout ce week-end. Demain, dans le groupe A, la Guinée affronte le Mali, qui avait été atomisé par la Zambie 6-1. La Zambie impressionnante sera face à l'Égypte. La Zambie est déjà qualifiée. La rencontre entre la Guinée et le Mali peut donc s'avérer décisive. Dans le groupe B dimanche, ce sont carrément les 4 équipes qui peuvent se qualifier. L'Afrique du Sud aura la tâche plus facile contre le Soudan. Dans le second match, les Lionceaux du Cameroun et du Sénégal devront s'imposer pour s'assurer de poursuivre l'aventure.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State a concédé jeudi à Chicago une inquiétante deuxième défaite, 87-94, tandis que Russell Westbrook a marqué 45 points qui n'ont pas suffi à Oklahoma City pour battre Portland, 109-114. Les playoffs s'éloignent toujours pour Charlotte après sa lourde défaite à Phoenix, 103-120.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Morgane Guiriec de retour avec vous, les dossiers du jour. Trois groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda opérant dans la région du Sahel viennent d'annoncer leur fusion. Al-Mourabitoun, Ansardin et les Katibas du Massina ont revendiqué plusieurs attentats au Mali, mais c'est toute la région qui ont concerné par cette nouvelle alliance. C'est l'avis de l'ancien diplomate mauritanien et actuel directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel, Sahara, Ahmedou Ould Abdallah, et joint à Nouakchott par Abdourahmane Dia.
Ils font le même combat contre le même genre d'adversaires ou ennemis, pas seulement le gouvernement malien, mais les autres. Mais je pense surtout que c'est une action politique de communication au moment où le gouvernement malien commence à essayer de mettre en œuvre les accords d'Alger plus de 18 mois après leur signature. Ces mouvements veulent dire « nous sommes là » et empêcher ceux qui seraient tentés par changer de camp de réfléchir à deux fois avant d'y aller. Et je pense aussi que c'est un message à la communauté internationale, c'est-à-dire la France en particulier, l'Union européenne, éventuellement les États-Unis et les Nations unies, pour leur dire « nous sommes toujours là, on a annoncé notre fin, mais nous sommes là ». Et enfin, c'est pour recruter.
Est-ce que ce n'est pas également un signe d'affaiblissement de ces groupes qui voient la nécessité de s'unir en ce moment aussi?
Je ne pense pas. Je pense qu'il n'y aura pas d'unité effective. Parce que tout simplement, une unité effective dans les opérations les expose, les fragilise en un sens qu'ils peuvent être plus facilement récupérés ou détectés. Je pense sincèrement que c'est surtout une opération de communication vis-à-vis de leurs troupes de l'extérieur et pour mobiliser des ressources.
Vous parliez plutôt du Mali, mais qu'est-ce que cela signifie pour la région du Sahel en général ?
Effectivement, nous parlons du Mali parce que c'est un peu l'épicentre, mais la question est bien au-delà du Mali. Toutes les régions sont concernées, même les pays où il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'opération, elles sont concernées parce que ces groupes ont des cellules et des combattants qui sont au repos dans tous nos pays. L'autre élément qui est important, c'est aussi pour dire à leurs adversaires théoriques, c'est-à-dire l'État islamique, le Sahel, Maghreb, c'est notre zone.
Ils confirment leur suprématie dans cette région par rapport à l'État islamique.
Tout à fait. Mais tout ça pour la région, ça veut dire attaquez-vous au vrai problème de fond. Il faut qu'il y ait des consensus, qu'il y ait des gouvernements d'union nationale.
Ahmedou Ould Abdallah, ancien diplomate mauritanien et actuel directeur du Centre stratégique pour la sécurité du Sahel-Sahara.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Divergences au sein du rassemblement de l'opposition au sujet de la succession d'Étienne Tshisekedi en RDC. La désignation de Félix Tshisekedi comme président de cette plateforme de l'opposition et de Pierre Lumbianissé, conseiller spécial du président Kabila à la tête du Conseil des Sages, n'est pas du goût de certains membres comme Joseph Olengakoy qui conteste cette désignation. Reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce sont des désignations sur fond de divergences. Félix Tshisekedi, fils biologique de feu Étienne Tshisekedi, a été désigné président du Rassemblement et Pierre Lumbi du G7, coalition rangée derrière Moïse Katumbi, président du Conseil des Sages. La désignation s'est faite selon Christophe Lutundula, cadre du G7, par un consensus majoritaire à l'issue des consultations.
Il est sorti qu'il y avait 6 candidats pour le poste de président du Conseil des Sages, dont Pierre Lumbi, Martin Fayulu, Yomi Ndongala, Joseph Olengakoy, Lisanga Bonganga et Jean-Bertrand Ewang. De ces consultations, il est sorti qu'une majorité confortable, composante, je ne dis pas d'individus, a appuyé la candidature de Pierre Lumbi. 5 composantes. 2 composantes ont appuyé M. Martin Fayulu. Le G14 s'est abstenu. La majorité populaire présidentielle a soutenu son candidat, M. Diomi Ndongala. Donc, si vous faites le total, vous avez 9. C'est ainsi que, par un consensus majoritaire, Lumbi a été désigné président du Conseil des Sages.
Joseph Olengakoy, le même candidat à la présidence du Conseil des Sages, estime que ces désignations se sont faites en l'absence de candidat et donc que la procédure est irrégulière.
Il n'y a personne qui était dans cette réunion-là. Ni G14, ni Dynamique de l'opposition, ni MPP, ni les alliés d'Étienne Tshisekedi. En tout cas, la tête d'Étienne Tshisekedi ne sera jamais vendue et nous allons la défendre avec la dernière énergie.
Aussi candidat, Lisanga Bonganga de la coalition des alliés d'Étienne Tshisekedi dit même ne pas comprendre comment l'UDPS peut accepter de perdre la présidence du Conseil des Sages. D'après lui, il s'agit des manœuvres du G7.
Mais qui ne connaît pas Lutundula? Les gens qui viennent à peine d'arriver, les remplaçants du président Étienne Tshisekedi, même d'une manière symbolique, la diaspora et tout le monde va apprendre que l'UDPS a accepté qu'aujourd'hui ce soit Lumbi, le conseiller spécial du président. Aujourd'hui, le peuple a besoin de quoi? Qu'on mette le président du Sensa et qu'on ait un premier ministre. Ça, ce sont les Katumbistes qui se sont réunis. Les Tshisekedistes se disent non à cette démarche-là. On n'est pas concerné.
Le nouveau président du Conseil des Sages du Rassemblement, qui s'est dit satisfait de sa désignation, appelle tous les membres à l'unité. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Bukavu sur 97.4 FM.
Et nous partons maintenant au Congo-Brazzaville. Il y a 5 ans, c'était le 4 mars 2012, explosion dans un dépôt de munitions. Bilan, près de 300 morts. Les survivants de cette tragédie ont toujours du mal à oublier et ils appellent les autorités à rebâtir leur maison, toujours en ruine. De Brazzaville, notre correspondante Gwelan Goussou.
Bâtiment toujours en ruine et maintenant transformé en décharge publique, le quartier de Yoro en Pila n'a pas changé de visage depuis cette explosion. Mauvais souvenir des survivants.
Franchement, ça me rappelle beaucoup de choses parce que dans ta vie, tu ne peux pas imaginer pour un même jour que tu puisses avoir au moins 40 ou 50 personnes qui meurent devant toi et que tu les reconnais de nom et de prénom. Non, c'est pas facile. C'est comme si c'était encore hier.
Ça restera gravé jusqu'à la fin de ma vie.
Les populations attendent toujours 5 ans après que les maisons soient rebâties par l'État.
Nous continuons à vivre dans les décombres. C'est comme si notre situation ne préoccupe pas les autorités de l'État. Nous sommes abandonnés à notre triste sort, on ne sait même pas quoi faire.
5 ans après, rien n'a changé, au contraire. L'hypo et l'hypertension est en train de saccager nos papas ici-là. Venez reconstruire les maisons, c'est ce qu'on demande au gouvernement congolais, qu'ils reconstruisent les maisons au lieu de construire là où se trouvaient les explosifs. Nous avons besoin d'eux sur le terrain, qu'ils reconstruisent les maisons. On a habité Mpila. C'est vrai, mais où est Mpila? C'est notre Mpila, il restera notre Mpila. Venez reconstruire nos maisons.
Dans les décombres, ça dit par tes propres efforts, tu as essayé un peu d'avoir des tôles, tu as essayé un peu de bricoler, voilà, on ne s'occupe même pas de nous, on est là, ça fait comme 5 ans. Voilà.
À l'épicentre de cette explosion, l'État a reconstruit des belles maisons. Celles-ci contrastent avec des taudis où habitent des survivants qui n'ont pas été relogés.
Là, on a construit seulement de l'autre côté vers le col 31J, mais nous, derrière le logement blindé, c'est pas construit.
Pas de réponse, et jusqu'à aujourd'hui là. Donc vraiment, c'est étonnant même. Là où il y avait l'explosif du 4 mars, on a construit les maisons là. Les maisons en étage et tout. Et nous, on nous a oubliés là.
Aujourd'hui, des centaines de familles ont pu être relogées à Kintélé, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville. Elles sont satisfaites des conditions de leur relogement, mais tiennent toujours à repartir à Mpila, leur quartier d'origine.
On est logé dans les logements. Il manque tout. Parfois l'eau, il rentre dans les maisons, vous voyez comment nous vivons. Hein? La déception totale, une déception totale. Nous sommes là en 2017, jamais un membre du gouvernement est venu ici voir, enquêter comment les gens vivent ici.
Ici, ça va parce qu'on trouve notre pain de nous-mêmes. Parce qu'en le temps, on disait oh, les sinistrés, on leur donne le pain comme ceci, comme cela. Mais depuis qu'on est là, on n'a même pas vu hein, même un kilo de riz ou bien de poisson. Mais depuis qu'on est ici... Rien. On est abandonné.
L'explosion de Mpila avait fait, selon le gouvernement, quelque 300 morts. Des militaires avaient été jugés et condamnés, dont le colonel Marcel Ntourou, par sursis. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
La 25e édition du FESPACO, le plus important festival de cinéma africain, se termine demain. Alors, qui remportera les talons d'or? Quelles sont les tendances qui se sont dessinées cette année? Anastasie Tudiech a joint à Ouagadougou Clément Tapsoba, le directeur de communication de la Fédération panafricaine des cinéastes.
Je peux dire, le bilan est positif. Chaque FESPACO est unique à son genre. Et ce FESPACO est unique dans ce sens que c'est d'abord, si je prends le point de vue technique, c'est la deuxième édition qui est réservée entièrement à la projection numérique, ce qui est déjà un pas en avant, ce que les cinéastes ont toujours souhaité. Il y a également le fait qu'il y a beaucoup plus de films inscrits. Chaque édition, on voit que le nombre s'accroît. On a eu plus de 1000 films inscrits et de 60 qui ont été retenus. Et beaucoup de pays qui sont encore de nouveau apparus, qui longtemps n'étaient pas présents sur la scène cinématographique. Et beaucoup de jeunes talents qui apparaissent à travers les écoles de cinéma. Et bien sûr, il y a aussi ces rencontres professionnelles qui permettent des échanges avec les étudiants, avec les professionnels sur des thèmes qui répondent justement aux attentes longues des cinéastes.
Est-ce que vous avez noté des tendances qui se dégageraient cette année?
Oui, la tendance, je pense qu'elle est diversifiée parce que l'on se rend compte que pour évoquer les thèmes sociaux et politiques, les thèmes socio-économiques sont toujours présents dans le cinéma africain. Il y a également cette incursion de plus en plus réelle dans les débats portant sur des questions politique.
Et ça n'est pas nouveau, ça.
C'est pas nouveau, mais c'est l'approche qui est souvent nouvelle. Et il y a des regards osés, et dans ce sens, je peux citer un film comme le film malien qui fait beaucoup parler de lui, et le film Woulou, qui aborde les problèmes de complicité avec les problèmes de terrorisme. Comment un pays comme le Mali a pu, les autorités se sont encoquinées pour effectivement mener la situation que l'on vit actuellement au Mali. Donc c'est des thèmes qui sont évoqués dans ce film-là.
Est-ce que vous avez un pronostic pour demain? Qui remportera les talons d'or demain?
Je n'oserais pas vraiment dire cela parce qu'il y a des films qui sont aussi beaux les uns les autres. Je pourrais bien sûr citer Woulou dont je viens de vous parler et je pourrais vous citer et féliciter de Alain Gomis, Free de l'Éthiopien Naïfé Bambou. Vous savez que l'Éthiopie, il y a longtemps que l'Éthiopie est venue donc, aussi à l'écran au FESPACO. C'est pour ne citer que ces films.
Clément Tapsoba, le directeur de communication de la Fédération panafricaine des cinéastes. Fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph. Présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités 24 heures sur 24. Bon week-end à tous.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.